Vous écoutez RTL.
La moitié des poissons que nous mangeons sont d'élevage. Quel progrès peut faire l'aquaculture pour rendre sa production plus goûteuse et plus respectueuse de l'environnement ?
La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, et moi je l'aime bien avec du citron.
Jusqu'à 22h.
L'aquaculture, c'est une activité en très forte croissance qui grandit de plus de 8% par an depuis une vingtaine d'années et qui, l'année dernière, a dépassé en tonnage la production de bœuf.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Allez, ce soir, on vous invite à dîner saumon fumé en entrée, barotti en plat principal, ça vous dit ?
Bah oui, j'ai un peu déjà dîné, mais ça a l'air bon, donc je vais en
reprendre. Monsieur, fais la fine bouche,
j'en reviens pas.
Mais au fait, sait-on vraiment...
Le barotti, je veux bien, oui.
Comment ces poissons sont arrivés ?
Hier, on était au bistrot, donc je vais vous laisser finir votre phrase.
C'est pas possible. André Facetta, vous pouvez éteindre le micro de Thomas Hugues. C'est gentil pendant que je cuisine mon poisson tranquillement.
Allez, on est parti.
C'est vrai que ce poisson, comment il arrive dans notre assiette ? D'où vient-il ? La pêche, l'aquaculture ? On fait le point ce soir avec notre invité Fabrice Telechea, enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir à tous, bonsoir.
Oui,
bonsoir.
On est ravis de vous accueillir, on est très curieux. Alors on a plein de questions pour vous. Vous venez de la Lorraine, c'est loin de la mer. Pourquoi cet intérêt pour les océans, les poissons ?
Alors je pense que c'est lié un petit peu à mes origines, puisque mon patronyme trahit un petit peu mes origines. Je suis né à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ça fait loin ça.
Oui, effectivement, c'est loin. Donc j'ai vécu de la naissance jusqu'à 18 ans, quand j'ai eu mon bac. Et après, comme la plupart des gens qui ont leur bac à Saint-Pierre-et-Miquelon, on poursuit nos études généralement en métropole.
Qu'est-ce qui vous a surpris quand vous êtes arrivé en métropole ?
Alors, ça a été un petit peu le point de départ du livre, puisque... On a été fortement marqué, je pense qu'on en reviendra un petit peu par la suite dans l'émission, par la morue, puisque historiquement Saint-Pierre-et-Miquelon est synonyme de pêche à la morue. Et à la fin des années 80 et tout début des années 90, on a eu l'effondrement des stocks de morue qui a marqué l'histoire de la pêche même mondiale, on peut dire. Et donc j'étais entre guillemets aux premières loges. Et ça m'a profondément marqué et je pensais à l'époque qu'on avait vidé finalement tous les océans et qu'il n'y avait plus de poissons dans l'eau. Et quand je suis arrivé en métropole, j'étais un petit peu étonné de voir qu'à l'étal des poissonniers, il restait encore beaucoup de poissons finalement.
Vous vous êtes demandé mais d'où ça vient ?
Eh bien oui, c'est un peu ce paradoxe qui il y a maintenant, ça ne me rajeunit pas, mais une vingtaine d'années on va dire, a commencé à germer dans ma tête en me disant... comment on peut expliquer ce paradoxe qu'il y ait des stocks qui s'effondrent, mais qui restent malgré tout beaucoup de poissons à l'étal du poissonnier.
Et vous allez répondre à cette question à notre micro de la curiosité. Fabrice, vous publiez « De la pêche à l'aquaculture », c'est aux éditions Belin, des produits de la mer, du poisson. Nous, les Français, on est particulièrement friands de ça.
Tout à fait, on est parmi les plus gros consommateurs dans le monde. Et en Europe, on est le premier marché européen en termes de volume. Donc c'est vraiment conséquent. On est des très très gros consommateurs de poissons, effectivement.
Et alors vous disiez, ce qui m'a marqué quand vous étiez à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était la disparition de la morue. On a quoi ? On a vraiment vidé les océans ?
Alors, en ce qui concerne le stock de morue, oui, il faut savoir que c'était le poisson qui était parmi les plus pêchés à la fin des années 60. C'était le deuxième poisson le plus pêché au monde. Et c'est donc Saint-Pierre-et-Miquelon était vraiment connu pour ça, et plus largement les grands bancs de Terre-Neuve. C'était les eaux les plus poissonneuses au monde. Donc on a considéré pendant 30 ans qu'il n'y avait aucun problème, qu'on pouvait pêcher à outrance. Et effectivement, ça s'est effondré.
Quels sont les autres poissons comme ça dont le marché s'est effondré, qui ont disparu ? L'anchois du Pérou.
L'anchois du Pérou, c'est plus ancien, mais effectivement, dans les années 60, suite essentiellement à la surpêche, mais aussi des phénomènes El Niño, qui est un phénomène climatique que je pense beaucoup de monde connaissent. Donc les deux conjugués ont fait qu'il y avait eu un effondrement. Mais c'est vraiment, je dirais, l'effondrement de la morue au Canada, parce qu'il n'y a pas que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une toute petite part, c'est plutôt... Dans cet ensemble, au niveau du Canada, qui a marqué l'histoire de la pêche.
Alors, on va parler de l'aquaculture et de tout ce que ça a modifié, parce que c'est une part de l'explication du paradoxe, évidemment, dont vous parliez à l'instant. Mais si on reste sur les poissons sauvages, est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui, sur les étals de nos poissonniers, des poissons sauvages issus de la pêche qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne consommait pas il y a 20 ou 30 ans ?
Oui, c'est tout à fait. Donc ça, c'est le premier paradoxe, en fait. Au départ, j'ai réfléchi vraiment sur la pêche à la morue, c'est ça qui j'ai poussé mes investigations uniquement sur cette espèce. Et force est de constater que voilà, il y avait aussi d'autres stocks qui s'effondraient. Donc s'il y a beaucoup de stocks qui s'effondrent et que en continuant à en trouver beaucoup à l'étal du poissonnier, c'est bien qu'on a... on est allé chercher d'autres, des nouveaux stocks qu'on n'exploitait pas il y a encore 20-30 ans.
De plus en plus profond, en fait.
De plus en plus profond. Par exemple, on pêchait entre 50 et 200 mètres de profondeur. Maintenant, on pêche allègrement au-delà de 1000 mètres de profondeur. Des poissons plus petits aussi.
Moi, je me rappelle, il y a 6 ans, j'ai fait un documentaire où je suis partie un mois sur un chalutier avec des pêcheurs qui pêchaient en grand fond. Et je me rappelle d'une pêche incroyable où ils ont pêché un empereur et ils me disaient « savoure le bien ». Parce qu'il y en a quasiment plus dans le fond des océans. Ça, c'est un poisson qui a disparu et pourtant qu'on peut retrouver encore, qu'on peut redéguster aujourd'hui.
Alors déjà, le fait que vous soyez sur un chalutier, je vous aime bien, parce que je l'ai fait aussi une fois pendant 15 jours.
C'est cauchemardesque.
C'est certainement le métier le plus dur. Je m'en rappelle comme si c'était hier.
Les marins sont très courageux, en effet.
Très courageux, c'est un métier extrêmement...
Denis aussi, elle est très courageuse.
Oui, donc bravo. Oui, alors effectivement, l'exploitation des grands fonds est une vraie problématique, puisque ça contribue pour très peu, finalement, au volume total. Et on sait que l'exploitation de certaines espèces devrait être prohibée à l'heure actuelle, parce que c'est des espèces qui ne peuvent pas être exploitées.
Mais c'est quoi le problème? C'est les techniques qui sont utilisés par les pêcheurs, par la pêche industrielle, c'est ça?
Alors si on fait un historique, à partir des années 50, finalement on a reconstruit toute une flottille, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, on avait besoin de nourrir l'ensemble de la population, et notamment en Europe. Donc on a fait des bateaux de plus en plus grands, de plus en plus puissants, des nouvelles technologies, on a appliqué des choses du militaire pour la pêche, le sonar, le radar, etc. Ce qui fait que on a mis vraiment des moyens colossaux et on a réussi à pêcher de plus en plus, mais effectivement au détriment soit d'une surexploitation ou alors d'une destruction soit physique du substrat, c'est-à-dire du fond des océans, ou alors pêcher d'autres espèces.
Alors tous ces poissons qu'on trouve malgré tout sur le marché, dans les supermarchés, ils viennent d'où? De fermes aquacoles? Est-ce que l'aquaculture est une solution aux océans qui se vident? Est-ce que c'est bon pour notre santé?
Vous écoutez RTL.
Première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
En France, on consomme 36 kilos de poissons et de coquillages par an et par personne. C'est le double de la consommation mondiale. Mais ça pose un petit souci, c'est que comme les océans se vident, on se demande d'où viennent ces produits de la mer. Fabrice Telechea nous répond, vous publiez, je le rappelle, chez Belin, de la pêche à l'aquaculture. Demain, quel poisson dans nos assiettes? Alors c'est quoi? Tiens, on n'a pas encore défini l'aquaculture. C'est quoi exactement?
Alors l'aquaculture, c'est la culture soit de plantes, soit d'animaux aquatiques. Donc c'est le pendant de l'agriculture, mais en milieu aquatique.
Donc c'est une ferme qui est à quoi, quelques kilomètres de la côte? C'est pas trop loin de la côte en
Alors,
général?
Ça c'est l'image que l'on a classiquement en Europe, alors que cette image est assez fausse finalement au niveau mondial, puisque l'aquaculture c'est essentiellement des étangs, puisque la majorité de la production se trouve en milieu continental. Donc essentiellement...
Donc c'est des poissons d'eau douce alors à ce moment-là?
Tout à fait.
D'accord.
Oui, on n'a pas cette image en Europe, puisqu'on a... Classiquement, si vous demandez au grand public en France et plus généralement en Europe, ils vont vous dire le saumon.
Voilà,
le saumon, le bar. Ouais. Mais c'est une infime partie de la production. L'essentiel, effectivement, ce sont des carpes qui sont produits en Chine.
Mais c'est ce qu'on appelle le poisson d'élevage, finalement. C'est ça, Fabrice?
Tout à fait, le poisson d'élevage.
Et ce poisson d'élevage, il représente quelle proportion? Oh là là, quelle proportion? C'est vrai que c'était pas une journée terrible. Elle avait raison, Christina. Elle avait pas parlé du
poisson. Non, non, ça s'était bien passé jusqu'à présent.
Je suis maraboutée maintenant jusqu'à 22h.
Et donc vous faites du poisson au savon là tout de suite, alors allons-y.
Et c'est pas très bon le poisson au savon. Quelle proportion du poisson qu'on mange et qu'on achète sur nos étals au supermarché vient des fermes d'élevage et des fermes aquacoles? C'est peut-être plus joli comme mot d'ailleurs.
Oui, alors je vais y répondre, mais simplement un tout petit historique, parce que c'est le deuxième paradoxe que j'ai voulu aussi expliciter dans la deuxième partie du livre, c'est que historiquement on ne consommait que des poissons sauvages capturés dans le milieu naturel. Et à partir des années 80, c'est là où on voit le boom de ce qu'on appelle des poissons d'élevage, donc de l'aquaculture. Et à l'heure actuelle, au niveau mondial en tout cas, c'est 50-50. C'est-à-dire 50% des poissons, alors quand on dit poissons, c'est poissons, coquillages, crustacés, qui proviennent de l'aquaculture, et 50% qui proviennent de l'élevage. Donc juste, c'est pour ça que j'ai titré mon livre « De l'aquaculture ». Enfin, de la pêche à l'aquaculture, parce qu'on est vraiment à cette
donc
transition.
50%, attendez, moi en fait je suis un peu perdu. 50%
au niveau mondial.
D'accord.
Ouais, donc la moitié. Donc quand vous allez à l'étal de votre poissonnier, il est probable que vous ayez 50% d'élevage, 50% de... de sauvages.
Et c'est en très forte augmentation, c'est ça? Si on cherche la proportion, je ne sais pas, dans les années 80, début des années 80, c'était quoi?
Dans les années 50, c'était rien du tout l'aquaculture, ouais. C'était négligeable. Dans les années 80, c'était 10% de ce qu'on consommait. Et à l'heure actuelle, donc en l'espace de 30 ans, ce qui est phénoménal en termes de croissance, c'est plus de 60 millions de tonnes maintenant, c'est donc
50%. C'est effectivement faramineux.
Allez, le panel, on regarde un étal de poissonniers, le panel de poissons qui grandit en aquaculture.
Alors ça, c'est une difficulté que j'ai eue même en travaillant sur ce livre, c'est que il est à l'heure actuelle, comme la plupart des élevages sont extrêmement récents, les poissons sauvages ressemblent énormément aux poissons qui sont en élevage. Si vous regardez
physiquement, vous voulez dire, on a du mal à les
si vous regardez un bar d'élevage et un bar sauvage, il y a peut-être qu'une ou deux générations qui les séparent. Et ils sont même capables de se croiser entre eux. Donc, ils sont extrêmement peu différents.
Donc, l'étiquetage est très important.
Il est fondamental. Je pense qu'on en reparlera. Mais l'étiquetage peut nous aider en tant que consommateurs, justement, à faire la part des choses et à avoir essayer de promouvoir une pêche et une aquaculture durable.
Bah oui, savoir d'où ça vient, tout simplement. Alors, moi, vous m'avez intrigué parce qu'effectivement, je pensais ferme dans l'océan, saumon, bar, etc. Et vous m'avez dit, c'est d'abord les étangs, oui. L'aquaculture. Et c'est pas nouveau, en fait. Ça existe depuis le Moyen-Âge, si on remonte loin dans le temps.
Moyen-Âge, c'est Europe. Et si on regarde nos amis les Chinois, ça fait plus de 2500 ans qu'ils pratiquent l'aquaculture. Et ils la pratiquent donc dans des étangs avec plusieurs, ce qu'on appelle la polyculture, donc plusieurs espèces dans le même environnement, dans le même étang, et essentiellement des carpes, donc ce qu'on appelle la carpe commune ou d'autres carpes chinoises, donc la carpe herbivore ou la carpe à grosse tête. Donc ça, c'est très ancien chez eux. Chez nous en Europe, ça date de 1500-1600 avec l'introduction de la carpe commune. Mais le boom de l'aquaculture au niveau mondial, c'est vraiment les 30 ou 40 dernières années.
Et j'imagine que pour alimenter ces poissons qui grandissent dans ces fermes aquacoles, ils ne mangent pas du naturel. On leur donne à manger. C'est quoi?
Alors là aussi, c'est une idée que j'ai creusée relativement abondamment dans le livre, parce que c'est une des critiques majeures qui est faite sur l'aquaculture. Et encore une fois, je pense que c'est une vision européenne de l'aquaculture qui est basée essentiellement sur le saumon, où effectivement, comme c'est un poisson carnivore, il faut le nourrir. Alors qu'une grande partie de la production aquacole, que ce soit les mollusques filtreurs, par exemple, les moules ou les huîtres, il n'y a pas besoin de les nourrir, ils filtrent l'eau. Et les carpes, en Asie, essentiellement en Chine, il y a besoin de très peu les nourrir.
Donc il n'y a que le saumon qui est vraiment nourri. On a pu voir dans des reportages qu'ils sont nourris parfois avec des sacs de granulés.
Avec des granulés, tout à fait, oui.
Pas très ragoûtant. Donc ça concerne que le saumon.
Alors, je ne dis pas que ça concerne que le saumon, mais je dis que cette image qu'on a ne représente pas l'ensemble.
Alors, c'est quoi la réalité?
La réalité, c'est que c'est un mélange à l'heure actuelle avec des espèces que l'on nourrit pas, qui se nourrissent, si vous voulez, c'est relativement naturel en termes de production. Mmh. Et puis, vous avez une intensification. Et lorsque l'on passe à une échelle industrielle, comme c'est passé sur le saumon, effectivement, là, on augmente les rendements, on augmente la production. Et là, on va les nourrir fortement.
Oui, et on est, nous, consommateurs, en partie responsables de ce qui se passe, puisqu'on est demandeurs. Avant, manger du saumon, c'était rarissime. C'était un plat de fête, et encore, on ne pouvait pas forcément se le payer tous les ans. Et puis aujourd'hui, il y en a tous les jours, et on va peut-être manger du saumon.
On est demandeurs, est-ce qu'on ne nous le propose pas plutôt? On en mange parce qu'il y en a aussi. On ne milite pas dans la rue, non, je veux du saumon.
Mais on le consomme, on l'achète. On l'achète, ouais. Et ça nous semble normal d'en avoir tous les jours, alors qu'il y a 40 ans, nos parents auraient trouvé ça complètement surréaliste. Donc, mais bon, voilà, c'est pas un débat que je lance ici.
Mais en revanche,
c'est vrai que du coup, on leur donne quoi à manger ces saumons pour répondre à la demande de la consommation française et mondiale?
Alors le saumon, c'est une histoire vraiment intéressante parce que ça a commencé il y a 40 ans en Norvège. Donc c'est un chercheur qui a commencé à y travailler. Et en l'espace... Alors il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis pour la production. Donc il faut se dire que dans les années... Début des années 80, c'était 300 tonnes. C'est-à-dire c'est rien, c'est vraiment peanuts. Maintenant, c'est 1,5 million de tonnes. Donc en l'espace de 30 ans, comment ça s'est fait? Et bien, c'est parce qu'il y a eu un marché... Alors, je ne sais pas qui est responsable de quoi, si c'est eux qui ont produit énormément et on l'a consommé, ou c'est nous qui étions demandeurs. Mais en tout cas...
Ils ont trouvé des arguments marketing pour nous donner envie d'en manger, en tout cas. Voilà.
Donc, le saumon, il avait déjà une excellente image au départ, comme c'était un produit, comme vous avez dit, de fête, de luxe. Et donc, le marketing derrière, il a été relativement facile. Et c'est un poisson qui a une très bonne image auprès du grand public.
Mais alors, je suis un peu têtu, donc je repose la question. Qu'est-ce qu'on leur donne à manger pour qu'ils grandissent finalement plus vite, puisque c'est du business, tout ça?
Alors, juste un petit pour expliquer un petit peu l'agriculture. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait de l'élevage? On va nourrir on va minimiser le nombre d'intrants pour avoir le maximum de production. Donc on va optimiser finalement le process de production.
Ouais.
Et ben quand on fait l'élevage versus sauvage, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez prendre des animaux que vous allez nourrir à satiété en permanence. Alors que dans le milieu naturel, peut-être qu'ils vont rester quelques semaines sans manger, quelques jours. Mmh. Alors que là, ben, effectivement, ils vont grandir plus vite, mais ils ne sont pas forcément très différents génétiquement. C'est simplement ils se nourrissent toute l'année.
Alors, cette production, est-ce qu'elle est infinie? Est-ce qu'elle est sans danger pour la planète? On continue de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Vous pouvez nous appeler au 3210 sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL. À l'heure où la demande mondiale en poissons augmente et où les stocks naturels montrent leurs limites, il est plus que jamais nécessaire de créer une filière piscicole durable et plus productive.
Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre.
Comme toute production animale, l'aquaculture consomme des ressources, en particulier des ressources d'huile et de farine de poisson. Elle est assez critiquée pour ça.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mais d'où vient le poisson que nous aimons manger? La réponse avec notre invité Fabrice Telechea qui publie chez Belin de la pêche à l'aquaculture. Demain, quel poisson dans nos assiettes? Vous nous avez parlé de ce saumon qui est élevé, qui grandit dans des fermes aquacoles. On appelle ça l'aquaculture. Et on vous a posé une
deux fois,
fois
la fois, question.
Trois fois la question. Vous n'avez pas voulu répondre à Thomas Hugues. Mais bon sang, qu'est-ce qu'on leur donne à manger? On voit ces reportages avec des sacs de granulés de toutes les couleurs. Nous, on se dit, mais c'est dégoûtant. Alors là, c'est Sidonie Bonnec qui vous repose la question.
Et vous avez intérêt à répondre. Hein.
Parce, que je vous
parce
dis,
qu'elle a passé
drôle.
Un mois sur un chalutier. Donc on ne peut pas lui résister.
Je suis solide.
Je vous prie de m'excuser. Donc je vais essayer de répondre le plus clairement possible. Ce qu'on donne au saumon, ce sont des farines et des huiles de poisson qui sont issues de ce qu'on appelle la pêche minotière, qui est une pêche dédiée. Et on veut pêcher des poissons plus petits, par exemple le merlan bleu, qui est un poisson qui vit au large de l'Islande, ou aussi l'anchois du Pérou, qui vont être donc qui sont pêchés par des énormes chalutiers, qui sont transformés en farine et en huile, et ensuite qui sont donnés aux poissons. Ça, c'était vrai il y a encore très peu de temps, mais étant donné qu'on sait très bien que la pêche minotière exploite des stocks qui sont eux-mêmes déjà exploités ou surexploités.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est un peu absurde, c'est-à-dire qu'on pêche des poissons pour nourrir des poissons alors que nous-mêmes on n'en trouve plus des poissons sauvages sur nos étangs.
Oui, alors ça c'est une critique très forte, simplement que la réponse à cette question n'est pas si simple parce que les poissons justement qui sont exploités dans la pêche minotière, c'est pas si facile que ça de les exploiter directement pour la consommation humaine.
D'accord. Okay.
Donc ça aussi j'ai creusé un peu dans le livre parce que c'est souvent une critique très forte qui est faite, c'est un peu aberrant de donner du poisson sauvage à donner à du poisson d'élevage. Ouais. C'est assez complexe pour essayer de décortiquer tout ça.
Mais ça veut dire, Fabrice, quand même qu'aujourd'hui, de moins en moins, on donne ces granulés qui sont composés d'huile de poisson et de bons restes de poisson, c'est ça? Ça veut dire quoi? Que c'est synthétique?
Non, pas du tout. Non, on continue à donner des granulés. Simplement, il y a une partie qui n'est plus liée à de la farine et d'huile de poisson, mais on incorpore des farines et des huiles végétales.
D'accord. Qui font polémique, qui font scandale ou pas? Il y a du soja. Il y a
alors, c'est pas si simple que
c'est,
ça.
C'est pas qu'on cherche l'embrouille, mais comme on est consommateur, on se demande un peu ce que. C'est vrai, ce que.
Non.
Ce que mange le poisson, quoi. Ouais.
Je pense que c'est une vraie question. Et de toute façon, ce qu'il faut rappeler, c'est que ces huiles et farines de poisson, au départ, déjà depuis les années 1950, ça existait, cette pêche. C'est ce que j'explique dans le livre. Cette pêche minotière est très ancienne, bien avant le développement de l'aquaculture. Et ces farines et huiles de poisson étaient utilisées notamment pour nourrir les volailles. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où l'aquaculture s'est développée, il y a une concurrence d'utilisation de ces farines et de ces huiles de poissons. Donc à l'heure actuelle, il y a eu un remplacement, si vous voulez, de l'utilisation pour les volailles, pas pour les poissons. Et en plus, il y a une partie maintenant qui est utilisée directement pour la consommation humaine, mais ça demande aussi des nouvelles technologies pour justement pouvoir les exploiter. Et face à cela, comme on augmente toujours la production des poissons qu'on appelle carnivores, on est obligé de retrouver des ressources nouvelles, et notamment les plantes. Mais ça pose des questions parce que c'est pas si facile que ça de faire ce changement. Mais à l'heure actuelle, c'est une voie de recherche qui est. Donc j'espère que j'ai répondu.
Oui, vous avez répondu, c'est super.
On
merci,
vous posera pas
merci
la
Fabrice Telechea. Si je fais appel à mon bon sens, j'aurais envie de dire, ben peut-être qu'il faut juste appuyer sur le frein, quoi. C'est-à-dire tout simplement arrêter de créer ces fermes d'aquaculture. Est-ce qu'ils s'en créent encore beaucoup?
Est-ce que vous êtes prêt à consommer que des carpes?
Moi, je suis prêt à consommer
moins de
poissons, par exemple moins de saumon, parce que je trouve ça absurde d'en manger tous les jours, quoi, ou d'en avoir autant sur les étals.
Au niveau mondial,
moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je mange des fruits et des légumes de saison maintenant. J'arrête
c'est
de manger
bien.
des fruits et des légumes qui viennent de l'autre bout de la planète, sous prétexte qu'elles sont proposées dans les supermarchés.
Je pense que voilà, la connaissance du grand public permet de faire changer effectivement nos habitudes. Manger 5 fruits et légumes, des fruits de saison, les poissons c'est pareil, il y a des poissons de saison, etc. Donc il faut marteler un certain nombre de choses pour que petit à petit on change nos habitudes, et si on est plusieurs à changer, ça fait des changements extrêmement importants.
Et si on crée une nouvelle ferme d'aquaculture aujourd'hui, il faut forcément quelques poissons sauvages pour démarrer, comment ça marche ?
Alors oui, on part de zéro. Alors même pour le saumon, au saumon, on n'en est qu'à la 8e génération de ce qu'on appelle de domestication. C'est-à-dire qu'on consomme les petits fils, si vous voulez. Ouais. Si on regarde par rapport au poulet ou au bétail, le bétail, on est à peut-être 1000 ou 1500 générations de domestication. Donc c'est absolument pas du tout les mêmes échelles.
Mmh. Donc ça veut dire qu'il est encore assez bon ce saumon ? C'est-à-dire plus, assez sauvage, plus on s'éloigne de la mère et des grands-parents, plus, plus la qualité baisse ?
Alors ça veut dire que vous allez arrêter de consommer tout le poulet, le bétail, tout le porc.
Il reste rien.
Donc on va plus consommer grand-chose. Mmh. Donc simplement, c'est que historiquement, le poisson d'élevage a une meilleure image que le poisson d'élevage. Mais c'est plus complexe que ça.
Bon, alors maintenant, on a besoin de conseils concrets. On va chez notre poissonnier, on va au supermarché. Comment on choisit un bon poisson ? La réponse tout de suite.
Est-ce qu'il y a des labels ?
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On vous aide à pêcher du bon poisson ce soir avec notre invité Fabrice Tellechea, professeur chercheur à l'université de Lorraine. Je rappelle juste pour ceux qui nous rejoignent, vous avez quand même une histoire extraordinaire. Tellechea, c'est un nom d'origine basque, c'est ça ?
Tout à fait.
Bon,
oui.
Et vous êtes né à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Donc Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc vous êtes le descendant d'un pêcheur basque parti.
Oui, c'est ce que je dis très brièvement au tout début du livre, parce qu'après c'est un livre plus académique, donc je parle très peu de moi, mais c'est simplement pour expliquer la genèse du livre. Donc je suis issu d'une famille de marins pêcheurs. Mon grand-père a fait ça toute sa vie pour gagner sa vie. J'ai eu des oncles qui aussi ont fait ça toute leur vie. Et si il n'y avait pas eu cet effondrement de pêche, peut-être que je ne serais pas là devant vous aujourd'hui, mais je serais marin pêcheur moi-même.
Et vous seriez en train de pêcher de la morue, parce que c'était le poisson qu'on pêche à Saint-Pierre, à Saint-Pierre-et-Miquelon.
On cherche le bon poisson avec
Exactement.
Fabrice.
Exactement.
Retrouver du bon poisson.
Alors,
sur nos étals.
Quelques conseils. La première chose à faire quand on achète, par exemple, du poisson en barquette au supermarché, c'est quoi ? C'est de lire l'étiquette comme pour tous les produits, c'est ça ?
Eh bien, écoutez, la législation européenne. Alors, en tant que consommateur, on peut vraiment avoir les moyens de choisir ce qu'on achète, puisque la législation européenne impose qu'il y ait 3 choses qui soient indiquées sur tous les produits. Donc si ça y est pas, c'est parce que les gens ne respectent pas cette législation. Donc notamment sur quand vous allez au supermarché, sans donner de marque, vous pouvez retourner le produit, vous avez le nom de l'espèce. Donc, généralement, vous avez le nom commun, mais vous pouvez aussi avoir le nom scientifique.
Ouais.
S'il est pêché ou élevé, et l'endroit d'où il vient.
L'origine géographique, d'accord.
Tout à fait.
C'est pareil sur les étals des poissonniers, pardon, Sidonie.
Logiquement, ça devrait sur l'étiquette, tout à fait.
D'accord. Alors, une fois qu'on a lu ça, ça sert à quoi ? Peut-être au moins, si on fait attention à l'empreinte carbone, par exemple, si le poisson vient de trop loin, on ne l'achète pas, c'est ça ? Qu'est-ce qu'elle nous indique ? En quoi elles peuvent nous aider à mieux consommer le poisson, cette étiquette ?
Alors, en tant que consommateur, il y a plein d'informations qu'on va prendre en compte. Donc, c'est les dernières pages du livre où j'ai essayé de me mettre à la place du consommateur moyen et essayer de se dire, voilà concrètement qu'est-ce que je peux faire pour que les choses aillent dans le bon sens.
Alors.
Donc, voilà, il y a le prix qui va déterminer un certain nombre de choses. Mais si on va promouvoir une pêche, une aquaculture durable, c'est possible, mais il faut qu'il y ait une tierce personne qui nous aide. Parce que sincèrement, il y a tellement d'espèces,
mais
il y a des centaines d'espèces.
Personne ne peut nous aider au supermarché.
Non, mais
ben donc, si vous
il faut
demander à Fabrice vous accompagner pour vos prochaines courses.
Faut se balader avec le livre, Thomas.
Voilà.
Vous nous rappelez
de la pêche à l'aquaculture qui est publié chez Belin, dans lequel vous dites par exemple que le surimi c'est pas si mauvais.
Alors le surimi, c'est peut-être aussi une mauvaise image que l'on a, et je répondrai aussi comment on peut aider le consommateur. Hein. Le surimi, c'est 35 à 38% à peu près de filets de poisson. Qui suivent ensuite un processus, et moi personnellement j'en consomme beaucoup. Ce qui m'intéresse simplement de savoir, c'est si les poissons qui sont utilisés pour faire le surimi sont issus ou non d'une pêche durable.
Alors on le sait ?
Ça on peut le savoir. Donc il y a un organisme qui a une quinzaine d'années maintenant, qui est le MSC, et ils ont des logos, et ça c'est au niveau international. Et avant de venir à l'émission, j'ai regardé un peu leur site internet, qui est cité à la fin du livre. Et c'est en anglais ou en français. Et si vous allez dessus, vous voyez que je dirais que la catastrophe des années 70-80, où là, en gros, on va dire que l'ignorance où tout le monde s'en foutait un peu, soyons clairs. Maintenant, c'est plus vrai. Alors, la surpêche, t'es connue. Et on peut, avec ce genre de logo, faire des choix.
Dernier conseil,
voilà,
alors.
Demain, je vais aller chercher du poisson. MSC, je le vois quoi? Sur des barquettes, sur du surimi, voilà, sur des fruits de mer.
C'est un logo bleu avec un poisson blanc dessus.
Ça, c'est bon signe. Ça, c'est cool.
C'est excellent.
J'ai entendu parler du label rouge. Je sais que, par exemple, on nous dit, si vous voulez manger du saumon, vaut mieux en manger très peu souvent, parce que c'est très cher, et il faut le prendre label rouge. C'est vrai, et ça marche pour quel autre poisson?
C'est tout à fait vrai. Après, je dirais, c'est comme pour l'agriculture, la qualité a un prix. C'est-à-dire que si on veut du poisson pas cher, des énormes volumes, et qu'on ne veut pas payer, à mon sens, c'est une aberration. Donc la qualité se paye, et effectivement, l'agriculture, comme l'aquaculture maintenant, fait la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez trouver du saumon pas très cher, mais qui sera, entre guillemets, mal produit, et du poisson label rouge.
C'est quoi le label rouge?
Alors, c'est comme les poissons bio, ce sont des labels qui vous garantissent une certaine qualité du poisson. Donc,
la manière dont il a été nourri,
dont il a été produit, le bien-être du poisson est pris en compte, etc. Donc, il y a du bar, par exemple, label rouge, qui est d'excellente qualité, d'origine française. Donc aussi, ça peut être un critère. Mais simplement, il faut quand même être conscient qu'au niveau mondial, l'essentiel de ce qu'on produit, et c'est vrai en agriculture aussi, n'est pas du bio, mais du conventionnel, parce qu'on a besoin de nourrir 7 milliards d'êtres humains.
Si, dernier conseil rapide, si vous deviez choisir un poisson, là, en ce moment, ce serait lequel?
Ouh, excellente question.
Votre préféré?
Alors, c'est pas un poisson, c'est un mollusque. D'un point de vue durable, je prendrais soit des moules françaises. Je trouve que c'est je n'ai pas d'action. Et sinon, au lieu de prendre, alors là, c'est aussi éco-citoyen, c'est-à-dire très court. Je prendrais aussi de la truite arc-en-ciel française et notamment bio. Pour soutenir notre agriculture.
C'est bien noté.
Voilà, un bon conseil.
Le
merci
menu
beaucoup.
De demain est en route. J'espère que vous allez me cuisiner tout ça, Thomas. De la pêche à l'aquaculture. C'est chez Belin. Merci beaucoup, Fabrice.
Vous écoutez RTL.